tous les bienvenus ce matin et je vous propose de commencer par un moment de louange et de reconnaissance à notre Dieu.
Oh qu'il est bon, oh qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères et sœurs de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Ah, qu'il est cool pour des frères et sœurs de se retrouver ensemble ce matin. Enfin, je pense que si vous êtes là, c'est que vous adhérez à cette affirmation du psalmiste, psaume 133. Mais qu'est-ce qui fait que c'est bon et agréable de demeurer ensemble? Alors, le psaume propose deux images. Se retrouver ensemble entre frères et sœurs, c'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête du grand prêtre, en l'occurrence Aaron. Et se retrouver ensemble entre frères et sœurs, c'est comme la rosée qui descend de l'Hermon. Alors, dans l'Ancien Testament, l'image de l'huile, c'est une image de consécration au service du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, l'huile représente aussi l'Esprit. Et c'est en premier lieu Jésus-Christ qui est oint de l'Esprit. À la synagogue, le jour du sabbat, il cite un texte d'Ésaïe. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Donc par la suite aussi, Jean dira aussi à propos des chrétiens auxquels il écrit, « L'esprit dont vous avez été oint par Christ demeure en vous. » Donc cette huile, c'est vraiment l'esprit qui descend sur Jésus-Christ et puis ensuite sur nous et qui habite maintenant dans nos cœurs. Et c'est par l'œuvre de Jésus-Christ que nous sommes frères et sœurs. Et parce que cette œuvre est bonne, il est bon que nous soyons ensemble. C'est ça, la présence de l'Esprit qui nous unit. Et aujourd'hui, il y a plusieurs églises représentées, et c'est aussi la présence de l'Esprit qui fait que nous sommes une seule église. Alors c'est ce que je vous propose, ces différents thèmes que je vous propose de chanter dans ces trois prochains chants qui viennent.
Nous sommes frères et sœurs. Viens, Dieu, nous partirons. Nous sommes. Nous n'avons qu'un seul
L'Ancien Testament, la rosée est une image de la bénédiction divine. Dans la bénédiction que Jacob reçoit d'Isaac, Isaac dit que Dieu t'accorde donc la rosée qui descend du ciel, qu'il rende tes terres fertiles, qu'il te donne avec abondance du froment et du vin. Alors évidemment, dans un climat comme celui de la Palestine, la rosée a toute son importance, dans les étés caniculaires aussi. Alors je n'ai pas trouvé de référence directe à la rosée dans le Nouveau Testament. Curieusement. Alors, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de bénédiction, mais il n'y a pas la référence directe. Par contre, en termes de bénédiction, on sait, l'épître de Jacques nous le dit, que tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières. Et je crois que la présence de son esprit est ce cadeau de valeur, ce don de parfait, qui nous vient d'en haut, du Père des Lumières. C'est sa présence qui nous rafraîchit. Alors, avant d'écouter le message, propose un chant qui demande à Dieu aussi de nous renouveler, de renouveler nos cœurs pour accueillir sa parole.
Thank you.
Après ce moment de louange, les enfants, vous avez un moment en bas. Donc vous pouvez suivre Éléonore, voilà. Comme ça, vous pourriez en bas faire une petite activité. Donc je vous laisse suivre Éléonore qui est au fond. Et puis je vais aussi prier pour vous. Et je vais prier aussi pour Annick qui délivrera le message, pour la parole de Dieu que nous allons ouvrir et écouter. Père, tu es le grand Dieu des cieux, le Dieu tout-puissant. Tu nous donnes l'opportunité ce matin de pouvoir ouvrir ta parole, la parole de Dieu, l'écouter, écouter le message qui sera délivré. Nous voulons te demander de bénir Annick, qui délivrera le message, te demander de lui accorder la sagesse et l'inspiration qui vient de toi. Nous voulons aussi te remettre ces enfants qui sont descendus, te remercier pour cette grâce que tu nous fais d'avoir des enfants dans cette église. Nous te demandons ces choses par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Heidi, je t'invite pour la lecture.
Je lis dans Ézéchiel 34, versets 1 à 6 et 11 à 12. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, « Toi qui n'es qu'un homme, parle comme un prophète contre les chefs du peuple d'Israël. Parle comme un prophète et dis-leur. Voici les paroles du Seigneur Dieu. Quel malheur pour vous, bergers d'Israël. Vous vous occupez seulement de vous-même. Est-ce que les bergers ne doivent pas s'occuper des moutons ? Vous, au contraire, vous buvez le lait des brebis, vous prenez leur laine pour vous habiller, vous tuez les bêtes les plus grosses, mais les moutons, vous ne vous en occupez pas. Vous n'avez pas rendu des forces aux moutons qui étaient faibles, vous n'avez pas guéri ceux qui étaient malades, vous n'avez pas soigné ceux qui avaient une patte cassée, vous n'avez pas ramené ceux qui s'étaient éloignés du troupeau, vous n'avez pas cherché ceux qui étaient perdus. Mais vous avez dominé les moutons avec violence et dureté. Les moutons sont partis de tous côtés parce qu'ils n'avaient pas de berger, et toutes les bêtes sauvages les ont dévorés. Mon troupeau est allé se perdre sur les montagnes et sur les collines. Mes moutons sont partis de tous côtés dans tout le pays. Personne ne va les chercher, personne ne s'en occupe. Voici ce que je dis, moi, le Seigneur Dieu. À partir de maintenant, j'irai moi-même chercher mes moutons et je m'occuperai d'eux. Quand un berger se trouve au milieu d'un troupeau parti de tous côtés, il s'occupe de ses moutons. De la même façon, je m'occuperai de mon troupeau. J'irai délivrer les moutons partout où ils sont partis, dans le brouillard et dans la nuit.
Chère Célina, cher Joël, je ne peux plus dire cher Simon puisqu'il s'amuse déjà en bas, cher conseil, pasteur et membre de l'église de Mérin et vous qui êtes venu pour ce culte spécial, je suis vraiment heureuse et honorée d'être avec vous ce matin ici. Un culte d'installation, ça peut paraître un peu procédurier et inutile si on pense qu'une personne reprend ou occupe un poste, comme Célina qui est déjà là finalement depuis un bon bout de temps. Et on pourrait peut-être se passer de rajouter une cérémonie là-dessus, en plus quand elle s'appelle installation. Ça fait vraiment figé, fixé, voire indéboulonnable. Mais peut-être que ça prend davantage de sens si on pense à l'importance des étapes dans un chemin de vie. Celui de Célina autant que celui de l'Église auront dorénavant une pierre blanche posée, un seuil qui marque une nouvelle étape à venir. Alors tu comprends, Célina, pourquoi je me réjouis d'être là. Parce que depuis qu'on se connaît, il y en a déjà eu des étapes. Pour expliquer à tout le monde, s'il est vrai que je viens aujourd'hui du Jura, vous l'aviez déjà entendu, de Delémont, eh bien, nous avons quand même vécu pendant plus de 25 ans à Genève, en famille, et en grande partie comme responsable de la jeunesse à la paroisse de la rive droite. C'est ce groupe de jeunes-là que Célina a marqué, dès son arrivée, avec des tas de questions, mais aussi des idées sympas, pour aller toujours dans des choses nouvelles, avec des projets, des changements, et souvent de l'admirable créativité. Et aussi, j'espère que ça n'a pas changé, son grand rire et ses danses. C'est aussi à ce groupe de jeunes qu'a eu lieu l'apprivoisement de Joël le Magnifique, qui a été le début d'une aventure palpitante et fructueuse. Oui, il y a eu des étapes marquantes et des étapes marquées, si on regarde par-dessus l'épaule. Mais aujourd'hui, on est là pour regarder vers l'avant, marquer une nouvelle étape, quelque chose à construire, un avenir avec Célina comme copasteur de cette assemblée. Elle, on la connaît peut-être un peu en tant que personne. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de se demander quel est ce métier qu'elle vient exercer ici. À part des dizaines de mails libellés au pasteur, globalement, ou des réunions d'équipe qui portent le merveilleux nom de pastoral, quel ministère exercera donc Célina ? On trouve dans la Bible ce message prophétique dont on a lu, entendu lire un extrait tout à l'heure, qui est adressé à des bergers ou pasteurs, c'est le même mot. Et là, vous avez vu, c'était pour leur remonter les bretelles. Aujourd'hui, bien des centaines d'années après, je doute que même des prophètes aient le courage d'utiliser ce vocabulaire-là. Donc, on va essayer de prendre ce message avec ses aspects positifs. Pour encourager Célina et pour nous encourager pour ce culte d'installation. Alors, la première chose qui m'a frappée dans ce texte, c'est la responsabilité immense qui semble reposer sur les épaules des pasteurs. Visiblement, ce n'est pas une planque comme métier. Mais c'est aussi un métier qui s'exerce à plusieurs, si j'ai bien entendu les paroles bibliques. Être pasteur, c'est forcément faire partie d'une équipe. Ce qui est une bonne nouvelle si on pense à toutes ces responsabilités qu'il y a à porter. Alors, bienvenue Célina dans l'équipe de Mérin, comme copasteur avec Philippe, avec un conseil, avec des responsables d'activités diverses et variées, et avec toutes les personnes qui s'engagent d'une manière ou d'une autre, et qui sont là. Bienvenue aussi dans cette équipe, dont le pasteur principal qui a pris la parole pour cette harangue, c'est Dieu lui-même qui parlait dans ce texte et qui aimerait que son troupeau soit conduit comme il faut. Finalement, c'est pas rien, non, d'être collaboratrice avec un si bon pasteur et lui. Il a les épaules très larges. C'est une assez bonne nouvelle. Alors, comme je vous l'ai dit, on va prendre cette harangue d'Ézéchiel en positif et j'ai remarqué trois encouragements sur le fond du métier de pasteur. Tout d'abord, ce qui m'a intriguée, c'est que le but d'un troupeau n'est pas de produire, je ne sais pas moi, de la viande, du lait de brebis ou de la laine, ou même des images folkloriques. Non, il n'est même pas fait mention de ce qu'un troupeau pourrait produire. Alors moi, ça m'interpelle. Concernant le ministère de pasteur ou des activités d'église, parce que j'ai l'impression qu'on étiquette facilement le ministère pastoral à produire des bonnes choses, comme des cultes avec des bons messages, des groupes d'activités pour tous les âges qui marchent, des événements qui plaisent, qui attirent des gens. Au Jura, j'ai remarqué que ça devait toujours se passer autour d'une table ou d'un repas. Eh bien non, les pasteurs n'ont pas comme objectif de produire ni ça ni autre chose. Ce premier constat, ça peut être un peu embêtant si on espérait ce matin savoir enfin et facilement ce que c'était, ce que faisait une pasteur. Si on imaginait qu'un culte d'installation pouvait être comme une sorte d'entrée dans un cahier des charges. Non. Par contre, vous avez entendu, comme moi, les paroles du prophète avec un appel à ne pas se servir en premier, mais à prendre soin de chaque personnalité du troupeau. Voilà le cœur de l'appel du Seigneur au berger. Prendre soin de chacune, de chacun. Tout d'abord, en faisant ceci. Donner ou redonner de la force. Je me demande, dans une responsabilité chrétienne et spirituelle, qu'est-ce qui donne de la force aux enfants, aux jeunes, aux parents, aux collègues, aux retraités fringants, aux aînés pétris par l'expérience? Je ne pourrais pas répondre, sauf pour moi-même et souvent a posteriori. Je remarque que ce qui m'a donné la force, c'est assurément ce qui m'a permis de vivre, de renouer, d'avancer dans une relation avec Jésus-Christ, encore et encore, sous différentes formes. Eh oui, Célina et Joël, évidemment, moi je pense au camp. Ça rebooste. Mais même moi, je suis obligée d'avouer qu'on ne pourrait pas vivre que dans des camps. Ça deviendrait monotone. Toi, Célina, tu aimes partager autrement peut-être des moments d'opéra, de dégustation, d'études, voire de fouilles publiques, etc. Et tu sais aussi partager ta vulnérabilité humaine. Tu ne joues pas la super-héros. Et crois-moi, cette manière d'être vrai, ça transmet de la force autour de toi. Et puis le prophète Ézéchiel lance un encouragement dans un domaine que tu aimes et tu connais bien, Célina, quand il s'agit de prendre soin des collaborateurs, des collaboratrices, des équipes. Quoi, mais attendez, prendre soin de chaque personne, ça prend un temps fou. On n'avance pas, on n'ira nulle part. On va juste se regarder le blanc des yeux et puis se voir prendre des rides. C'est possible, mais je sais une chose, Célina, que si tu es là ce matin, c'est parce que toi, tu as eu le temps de te poser des questions, de trouver des réponses qui te convenaient pour oser être vrai dans ta foi et dans ta personnalité. Aujourd'hui, comme pasteur, tu sais que prendre soin de chaque personne, ce n'est pas un à côté, mais c'est le cœur vibrant de l'Évangile. Parce que finalement, qu'est-ce que faisait d'autre ce Jésus, notre maître, que de tout le temps se faire arrêter? Il ne cherchait pas de la productivité, ou alors il n'a pas produit grand-chose. Mais il se laissait toujours arrêter, à chaque pas, par des gens tellement différents. qui avaient besoin chacun de choses très différentes. Et malgré ça, même s'il avait pas l'impression, il ne donne pas l'impression d'être allé vite, eh bien, rien n'a jamais pu éteindre la flamme qu'il est venu allumer. Rien n'a jamais pu faire flancher les éclopés pour qui il s'était arrêté. Et je crois que ça peut nous encourager toutes et tous ce matin, autant qu'on est, à choyer notre esprit d'équipe, à prendre soin les uns des autres. Quand chaque personne se sait et se sent importante, c'est toute l'ambiance qui change. Et si on dit que 80% des gens qui quittent un emploi le font non pas à cause du boulot lui-même, mais à cause de l'ambiance au travail, eh bien moi je suis convaincue que dans l'Église, c'est pareil. Je crois qu'à l'Église, on y vient, on s'y engage, on y grandit quand on se sent bien, quand on se sent écouté, quand on se sent respecté. Alors quand Ézéchiel donne comme troisième exhortation d'aller chercher et de ramener les dispersés, eh bien l'ouverture elle est déjà là, l'élan il est déjà donné. Célina, je connais ton amour pour la vie actuelle, pour sa musique, ses arts, sa technologie, ses langages, parce que tu t'intéresses aux gens qui sont ainsi reliés. Autant de gens que tu aimes découvrir avec ton enthousiasme, mais aussi avec délicatesse. Alors je me dis que vraiment l'Église de Mérin a de la chance d'avoir une copasteur comme toi, parce que vraiment, actuellement, je trouve que c'est rare et précieux des personnes qui cherchent à rassembler et à réunir. Peut-être, comme le disait la phrase d'ouverture de ce texte biblique, des gens qui ne se servent pas en premier. Voilà, maintenant, vous pouvez dire, nous pouvons dire que c'est un sacré programme que d'être installé comme pasteur. Et je suis d'accord. Et c'est peut-être pas seulement le programme de Célina, mais tout le programme d'une communauté qui l'accueille et qui va progresser avec elle. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce culte d'installation est une marque, un seuil pour toute l'Assemblée, pour une étape à venir. Pas seulement pour Célina. J'espère donc que les paroles du prophète Ézéchiel, maintenant qu'on les a vues de manière moins cruelle pour les pasteurs, vous accompagneront dans ce sens positif, dans cette étape qui commence. Et je dois quand même ajouter un tout petit aparté pour Célina. Peut-être n'essayez pas trop de comprendre, parce qu'on se connaît depuis trop longtemps. Mais si jamais, Célina, le langage des troupeaux, des moutons, ça ne te parle pas trop, eh bien, sache que j'ai traduit ces versets dans le langage d'une plantation de bananes ou même de cacao, si tu as besoin, toi aussi, de te renouveler dans tes références. Ça marche. L'important, pour moi, c'est que tu saches non seulement prendre soin des autres, les fortifier, les rassembler, mais que toi, tu te saches fortifier, soigner, et puis assurer, rassurer par un berger plus grand que nous, plus fort et plus aimant, parce que Jésus a dit qu'il était notre bon berger. Amen.
Merci pour ce message. Je note notamment pour le conseil de ne pas avoir de cahier des charges pour les pasteurs. Ça nous met un peu en péril, mais on se renouvellera aussi. J'invite le groupe Louange pour un chant. Seigneur, à quel autre irions-nous ? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le chef de l'Église, Jésus-Christ, le pasteur divin. On a rappelé par le message que le divin pasteur, effectivement, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous rassemble par son amour. Jésus-Christ qui nous appelle à le suivre car il est le chemin. Je vous propose de faire la lecture du Notre Père et vous invite à vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pouvez-vous rasseoir. Alors nous allons rentrer dans une partie un peu plus officielle de consécration avec un peu d'avance sur le programme. Alors on va attendre un petit quart d'heure comme ça si ça vous va. Non, je vous rassure, on va continuer. Dans cette partie officielle, nous aurons l'occasion d'entendre 2-3 personnes venir s'exprimer ici devant, et puis une deuxième partie d'engagement propre pour Célina et pour l'Église. Je tiens à remercier la présence d'un membre du conseil municipal, remercier aussi la présence de la FRI représentée par Didier Souter qui dira 2 mots après, remercier aussi la présence de la Fondation La Prévoyante, remercier aussi nos églises sœurs de la FRI ici à Genève, notamment avec la présence de l'église L'Espérance et l'église de Colonie, et puis aussi la présence de notre église voisine, l'église évangélique du Réveil. Je tiens aussi à excuser la présence du prêtre Robert Acoury et puis le conseil administratif de la ville de Mérin. Oui, parce qu'ils vont prendre la parole après. Effectivement, merci beaucoup Denise. Merci beaucoup. L'église évangélique de Mérin fêtera ses 60 ans l'année prochaine. 60 ans ancrés ici à Mérin, avec reconnaissance. Reconnaissance de cet attachement à Dieu et à Jésus-Christ. L'église évangélique de Mérin est ancrée ici à Mérin et tient à cet œcuménisme que nous vivons avec la paroisse protestante de Mérin et aussi avec la paroisse catholique pour être un acteur social au niveau de la ville de Mérin. Cet œcuménisme, nous y travaillons. Et c'est un plaisir de pouvoir, depuis un certain nombre d'années, de pouvoir mener des actions communes avec les autres paroisses. L'implication de l'église évangélique, c'est aussi avec la Framboise, une garderie que nous avons dans nos locaux en dessous, qui permet aussi à des familles ici à Mérin de pouvoir en profiter. L'église évangélique est une structure de type association qui fonctionne avec un conseil, avec une assemblée générale et avec des vérificateurs aux comptes pour une totale transparence. Cette structure nous permet d'avancer sereinement, en toute confiance et, comme j'ai dit, en toute transparence. Célina a été stagiaire chez nous entre 2019 et 2020 avec l'arrivée du Covid comme amie qui s'est invitée auprès de chacun de nous, mais qui n'a pas rendu facile un stage quand il faut prendre soin des gens à distance. Mi-2020, nous avions notre poste à 50% avec notre pasteur Claude Becher qui partait à la retraite et qu'il était nécessaire de renouveler. Et donc nous avons mis en place un système d'un groupe de recherche pour pouvoir trouver un pasteur qui allait renouveler ce poste à 50%. Je laisse donc la parole à André Fagioni, qui représente ce groupe de recherche, pour expliquer un tout petit peu la démarche qui avait été mise en place.
Dans chaque organisation, le départ d'une personne importante, c'est un défi, soit parce que la personne qui part a une personnalité particulière, soit parce qu'il occupe un poste très important, ou alors il a peut-être été en place pour une durée très longue. On prend l'exemple d'un chef dans un restaurant qui a fait 40 ans derrière les fourneaux, lui succéder, c'est pas facile. Et le choix de la personne qui succède est autant important que la méthode ou que le processus qu'on y applique. Alors, il y a différentes manières de trouver un successeur. On peut faire un tirage au sort. On peut aussi appliquer une règle familiale, comme en Angleterre, par exemple. On peut faire une sorte de cooptation, c'est-à-dire celui qui part choisit le suivant. On peut organiser des épreuves, un parcours d'obstacles, des questionnaires. On peut même faire un conclave. Bon, pendant la période du Covid, c'était un peu compliqué. Ici, à l'église évangélique de Mérin, il y a un processus qui existe. Et par ailleurs, je l'ai découvert en arrivant moi-même dans cette communauté. Et je l'avais trouvé à l'époque assez ingénieux, et du coup j'ai pu le vivre de l'intérieur quelques années plus tard, et je suis là pour vous le décrire brièvement. Donc effectivement, il y a la constitution d'un groupe qui est là que pour cette mission. Le conseil, il a un coup d'œil un petit peu comme ça sur toute la communauté. Et il va choisir ou demander à des personnes si elles sont d'accord de constituer, d'intégrer ce groupe. Le conseil pense que ces personnes peuvent avoir quelque chose dans leur manière de faire, dans leur qualité, qui les rend idoines à constituer un groupe de recherche. Et ce groupe, il se veut aussi représentatif en termes de classe d'âge, de sexe ou d'activité. Et libre à chacun ensuite d'accepter ou pas d'intégrer ce groupe. Alors, le conseil, dans un moment de faiblesse, m'a demandé d'en faire partie. Bon. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que le groupe, une fois qu'il est constitué, il doit être validé par l'Assemblée, ce qui donne déjà un premier équilibre. Et il valide non seulement la constitution du groupe, mais ainsi que sa mission, son mandat. Et dans le cas qui nous occupe, ce mandat portait autant sur le choix d'une personne que sur le recensement des besoins actuels et futurs de la communauté. Donc il y a d'un côté une appréhension de la situation et de l'autre le choix de quelqu'un qui peut prendre ces défis et les relever. Alors ce groupe, il a travaillé de deux manières. D'abord avec une approche qualitative, c'est-à-dire d'aller parler via des entretiens à l'ensemble des membres du conseil, de l'équipe pastorale de l'époque en place, ainsi que de tous les responsables d'activité, pour avoir une sorte de température de la vie de l'Église. Ça, c'est l'approche qualitative. Et ensuite, il y a une approche quantitative, c'est-à-dire on a fait un petit sondage auprès de l'ensemble de la communauté pour leur demander, en fait, quelles sont vos préoccupations, quelles sont vos attentes, et qui est à même de les remplir. Et ces deux démarches nous ont donné, au final, une esquisse, un portrait robot assez précis, autant du candidat que de son profil. En parallèle, Célina, qui à ce moment-là est en stage, a déposé une postulation pour dire « Moi, je suis prête à reprendre le poste laissé vacant par le départ de Claude Bécher. » Et donc, nous, au niveau du groupe, en s'appuyant sur les résultats de notre sondage, sur les comptes rendus de nos entretiens avec l'équipe pastorale, le conseil et les responsables d'activité, ça nous a montré que cette candidature, elle n'était pas saugrenue. Alors, on l'a examinée en tant que telle et on est arrivé à la conclusion que ça valait la peine d'aller de l'avant avec cette candidature. Et donc, on a eu l'occasion d'entendre Célina une deuxième fois. Non pas parce qu'on n'avait pas bien compris la première, mais parce que la première fois, on l'avait entendue comme pasteur stagiaire. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de faire cet entretien. Et la seconde fois, comme candidate. Et au terme de ce processus, le groupe a décidé que cette candidature pouvait être proposée au conseil. On en a discuté avec eux. Et le conseil a été d'accord d'aller de l'avant avec cette proposition. Et les choses se terminent là où elles ont commencé, c'est-à-dire que le choix se fait et est validé par l'Assemblée, par tous ceux qui sont ici, assis, qui ont validé le groupe au départ et qui valident la solution à la fin. Alors, au moment de conclure, deux petites pensées. Tout ça s'est fait en gros premier semestre 2020, donc en plein Covid. Et ça a été un peu une complication pour nous de travailler avec ces contraintes. Et le deuxième bilan, c'est que finalement, c'est un peu comme quand on fait un puzzle à la maison, 2 000 ou 3 000 pièces. Et on est en train de faire une partie du puzzle et il y a une pièce qui est importante, on la met. Et puis des fois, on se dit, mais est-ce que c'est la bonne? Parce que ça coince un peu. Là, je peux vous dire que la pièce, elle ne coinçait pas. Et on a terminé le puzzle et puis le coup d'œil, il est pas mal. Je vous remercie pour votre attention.
Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un processus très démocratique, très transparent, qu'on retrouve un petit peu au niveau politique. Et ça me permet de passer la parole à Fabien Grenu, conseiller municipal à Ville de Merin.
Cher ministre, mesdames et messieurs, au nom du conseil municipal, j'ai le plaisir de féliciter Madame Imhoff pour son installation en tant que pasteur au sein de votre église. Madame Imhoff est parmi vous depuis un certain temps déjà. Elle a su se faire apprécier à tous les niveaux, aussi bien dans toutes les communautés religieuses que dans la population. J'ai toujours plaisir à rencontrer les ministres lors des événements communaux. Et je souhaite au nom du conseil municipal à Madame Imhof un long ministère au service des habitants de notre commune. Merci.
Merci infiniment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes attachés à l'œcuménisme et le partage avec nos églises sœurs ici à Mérin, et notamment la paroisse protestante. Et j'invite Philippe Gola, pasteur à la paroisse protestante.
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chère Célina, au nom de la paroisse protestante de Mérin et aussi en mon nom propre, permettez-moi de vous féliciter. Si vous installez, consacrez, accueillez officiellement aujourd'hui Célina, c'est que vous avez su faire ce long et nécessaire travail de discernement qui nous a déjà été un peu présenté à l'instant, mais déjà bien en amont aussi, autour de cette question parfois tendue dans les églises évangéliques du ministère féminin. Un discernement que vous avez su faire de manière, je dirais, exemplaire, puisque vous avez su maintenir l'unité et la cohésion de cette communauté au travers de cette question épineuse. Et à nouveau, un deuxième travail de discernement ensuite, au moment de se demander, mais qui allons-nous mettre à ce poste-là? Et je dois dire, moi aussi, que vous avez bien discerné en choisissant Célina. Vous nous avez donné un vis-à-vis, à nous, réformés, un vis-à-vis plein d'humanité, d'humilité, d'empathie. Une femme et une pasteur aux multiples talents, talents de prédicatrice, talents d'artiste, talent de collaboratrice à l'annonce de l'Évangile. Et sans oublier une personne qui n'a pas peur de relever de nouveaux défis. Et pour l'Église, aujourd'hui, cette qualité est très précieuse. Alors, grâce à vous, grâce à toi, j'ai confiance que les bonnes et belles relations que nos communautés entretiennent depuis bientôt 60 ans, on l'a entendu tout à l'heure, ont encore un bel avenir. Avec Célina, je crois que vous êtes, je suis convaincu que vous êtes entre de bonnes mains, et Célina, toi aussi, tu es entre de bonnes mains, ici, à l'église évangélique de Mérin. Alors voilà ce que ma prière pour vous, c'est qu'ensemble vous puissiez vous mettre à l'écoute de l'Esprit et au service de l'Évangile, afin de faire rayonner le Christ ici, à Mérin. Amen.
Notre église fait partie d'une fédération dont on a quelques églises sœurs à Genève présentes ce matin. Et cette fédération va permettre de défendre à plus grande échelle notre église et d'avoir une sorte de direction comme ça qui nous permet de donner des grandes orientations, des apports aussi en formation. Et j'invite Didier Souter, qui fait partie de la direction de la FRE, à me rejoindre pour dire deux mots.
Chère Célina, cher pasteur, cher conseil, chers membres et amis de cette communauté de Mérin, c'est une joie pour moi, un privilège, effectivement, de vous rejoindre, de pouvoir se réjouir ensemble, effectivement, dans cette installation qui est un petit peu comme la grêle après les vendanges, où les choses arrivent après coup, mais c'est tant mieux, comme j'ai pu le comprendre. Je suis effectivement engagé dans la fédération avec un temps partiel, et j'occupe aussi depuis plus d'une vingtaine d'années un autre poste qui est celui de sapeur-pompier volontaire. j'aime bien, ça me permet de garder un pied dans la réalité. Lorsque vous partez en intervention pour un feu, par exemple, dans un milieu fermé, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Et ce matin, j'aimerais juste vous en énumérer trois. La première, c'est avec qui partez-vous ? Vous n'êtes pas tout seul. Tout seul en pompier, il est inutile. Il ne peut rien faire. Vous partez en équipe. En général, vous partez en binôme. Celui qui vous accompagne, est-ce qu'il est au courant de sa mission, de son appel ? Comment est-ce qu'il va ? Est-ce qu'il est dans le stress ? Est-ce que c'est un jeune qui débute, quelqu'un qui a de l'expérience ? Ce sont des choses importantes à prendre en compte avant de partir. Et puis, avant de s'engager dans la maison, on va faire un contrôle. On va voir comment l'autre est équipé. Alors, voilà, vous avez mis votre appareil, vous avez mis votre casque, votre masque, mais il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire seul. C'est important que l'autre puisse vous regarder. Est-ce que votre masque est bien croché sur le casque ? Est-ce que les griffes sont bien à la bonne place ? Si vous avez mal mis les choses que vous retrouvez dans le feu et que ça lâche, vous êtes mal. La première chose, ce souci de l'autre est une chose importante. C'est ce qui va vous permettre de bien vivre votre engagement, vous et votre binôme. On entre ensemble et on ressort ensemble. La deuxième chose, avant de partir, une chose importante, de vous assurer, est-ce que j'ai un moyen de communication ? Et lequel ? Ça pourrait être la radio. Alors, je vous rassure, on n'a pas ces radios-là aux pompiers, mais je n'ai pas osé emprunter les vraies radios, mais ça pourrait être une radio. Est-ce que vous avez une radio avec vous et votre binôme a une radio également ? Est-ce que celui qui est dehors a une radio aussi ? Ça pourrait être un klaxon. Lorsque vous partez, un moyen de communication est le klaxon. Mais encore faut-il savoir le langage du klaxon. Que veut dire un coup ? Que veut dire deux coups ? Que veut dire trois coups ? Que veut dire quatre coups ? Que veut dire trois coups en continu ? Alors, trois coups, par exemple, c'est... Est-ce que ça va ? Et la réponse de l'extérieur, c'est... ou de l'intérieur. 4. Ça va. Connaître le langage de la communication. Savoir qu'il y a quelque chose que l'on prend avec qui nous permettra de communiquer avec l'extérieur. Et la troisième chose, la dernière, est-ce qu'il y aura quelqu'un à l'extérieur qui va se préoccuper de vous ? Est-ce que quelqu'un sera là, au courant que vous êtes entré, qui pourra donner l'alerte si quelque chose ne va pas bien, qui va se préoccuper régulièrement de votre état de santé, de votre situation ? Ça pourrait être un sapeur spécialement désigné pour cette mission, ça pourrait être le machiniste du tonne pompe qui aura d'autres missions, mais dont celle-là, de checker régulièrement comment va l'équipe. Ça pourrait être un membre de la communauté, ça pourrait être le conseil de l'église, ça pourrait être le groupe employeur, ça pourrait être un responsable de la fédération qui est aussi pasteur à l'abri avec une autre activité, par exemple. L'importance d'avoir quelqu'un, d'avoir un lien. Lorsque nous partons pour un engagement, ce sont ces petites choses qui peut faire la différence si tout à coup cela ne tournerait pas rond. Ce sont aussi ces petites choses qu'on a tendance parfois à oublier. Parce qu'on est dans le feu de l'action, parce que là, maintenant, tout va bien et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais lorsque ça ne va plus, lorsque c'est plus compliqué, si vous n'avez pas pris de radio, que vous ne savez plus les codes du klaxon, que votre binôme n'a plus de réserve d'air et que vous êtes en plein feu, et que personne ne se préoccupe de vous dehors, c'est plus difficile. Mais être pasteur, à la frais, à Mérin, ce n'est pas s'engager comme pompier. Ce n'est pas avoir une mission stressante. Ce n'est pas vivre des moments de stress. Non, bien sûr que non. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Au nom de notre fédération, je te souhaite, Célina, un bon engagement. Que le Seigneur t'accorde sa bienveillance, qu'il te renouvelle et qu'il te donne sa paix tout au long de ta route.
Merci. Alors, je vais changer de casquette de la présidence du culte. Je vais prendre celle de président du conseil. On a entendu des beaux messages ce matin, une belle prédication qui nous rappelle que effectivement le pasteur divin, c'est le Christ. Mais qu'en tant que pasteur, tu dois le faire ici, mais sous le regard du pasteur divin. Ça me rappelle, et tu le sais que je suis très attaché à mon métier et pouvoir comparer, j'ai aussi moi un architecte divin qui construit l'Église. Et je suis très attaché à cette notion de construction. Et regardons vers l'avenir, puisque ça a été effectivement évoqué, tourner ensemble le regard vers l'avenir sous le regard de Christ, de pouvoir travailler ensemble. Avec ce début de Covid qui est terrible, mais sur lequel on a pu aussi travailler et puis apprendre à se connaître. Et même si l'installation, on aurait dû la faire une année avant, c'est un plaisir de pouvoir le faire et d'officialiser ce moment pour que nous puissions ensemble bâtir l'Église ici à Mérin, l'Église du Christ. Comme ça a été rappelé, tu as plein de bonnes idées. Tu as renouvelé dans les cultes un apport artistique qui apporte sa diversité. Et c'est vraiment cette diversité que nous aimons cultiver à Mérin et qui fait la richesse de notre Église de vivre dans la diversité. Donc, au nom du Conseil, nous nous réjouissons de pouvoir continuer avec toi, que tes forces soient renouvelées, que tes idées et tous ces projets qui ont été aussi évoqués par Annick, que nous puissions les mettre en œuvre pour la construction de cette Église. Merci. Nous allons passer maintenant au moment de consécration. Je t'invite donc à venir ici. Et puis, Philippe aussi pour la suite.
Nous l'avons entendu, le colloque de l'Église évangélique de Mérin a fait appel à Célina Imhoff pour être pasteur de cette communauté en étroite collaboration avec votre serviteur. Et c'est un immense honneur. Nous sommes donc rassemblés aujourd'hui pour installer dans sa charge notre sœur Célina Imhoff. Nous voulons le faire très officiellement, solennellement, et nous voulons la recommander à vos prières et à votre affection. Célina, tu es appelée à exercer au milieu de nous tous et toutes le beau ministère pastoral évangélique. nous t'avons invité à t'approcher afin de prendre devant Dieu et devant notre assemblée réunie l'engagement solennel qui doit te lier à ta charge. Alors nous t'invitons maintenant à bien vouloir nous adresser les quelques mots que tu as préparés.
Alors me voici devant vous pour vous exprimer mon désir d'engagement ici à l'Église évangélique de Mérin. J'aimerais vous dire en quelques mots comment s'est tracé mon chemin jusqu'à ce jour du 23 octobre 2022. Vous commencez, et vous l'avez déjà entendu aujourd'hui, mon amour pour les arts. Alors si je devais utiliser deux couleurs pour illustrer ce chemin, j'aimerais l'illustrer avec du vert et du rouge. Et puis bah, ça tombe bien, parce que c'est ce que je porte ce matin. Ce qui tombe bien aussi, c'est que c'est aussi les couleurs de la commune de Mérin. Un hasard peut-être pas si hasardeux que ça. Dès mes premiers instants ici, fin de l'année 2017, j'ai eu ce sentiment de possibilité qui s'ouvrait à moi. Un peu comme un voyant vert rassurant, dans une période où des portes s'étaient refermées. Nous laissant, ma famille et moi, sans église, sans communauté où entretenir notre vie spirituelle. Un aspect primordial dans notre vie, à mon mari et à moi. Et c'est à Mérin que j'ai pris la décision de pousser une porte que j'avais beaucoup d'anxiété à ouvrir. Celle de devenir pasteur. Une pasteur femme, déjà maman d'un jeune petit garçon. J'allais prendre un rôle très peu répandu dans nos milieux évangéliques. Mais très vite à Mérin, j'ai compris que c'était l'endroit où cela pourrait être possible. Et depuis, les voyants n'ont cessé d'être verts d'une manière parfois très surprenante. Mais vous et moi savons pertinemment que la vie n'est pas faite que de portes ouvertes, de feux verts qui nous permettent d'avancer sur une route sans obstacles. Non, des feux rouges, il y en a eu aussi. J'ai commencé mon stage parmi vous en septembre 2019. Et 6 mois après, la pandémie du Covid-19 nous est tombée dessus et tout s'est arrêté. Le feu est passé au rouge sans prévenir et sans certitude sur l'avenir. Comment découvrir ce qu'est une vie d'église, un métier de pasteur quand on télétravaille ? Quand nous faisons nos réunions sur Zoom, quand notre place se trouve derrière un écran et plus non proche de vous. Mais j'ai très vite compris qu'être pasteur, ce n'est pas que être pasteur quand tout va bien, quand le bon berger nous mène sur de verts pâturages. C'est aussi passer par la vallée de l'ombre de la mort. Et une église reste une église, que le feu soit vert ou rouge finalement. La vie s'est révélée de manière très différente à nos yeux pendant cette période, et d'autres choses en nous ont pu être explorées. Et c'est aussi ce regard que je pose sur ma propre vie. Il y a eu des feux verts auxquels je ne m'attendais pas. Partir d'un orphelinat du fin fond du Sri Lanka, pour arriver ici 38 ans plus tard. Difficile de nier la présence et la grâce que Dieu m'a accordée en arrivant là. Il m'a sauvée, et je crois qu'en lui, tout est possible. Oui, mais cependant, tout n'est pas non plus possible pour moi. Car même si Dieu est tout puissant, moi je suis humaine et très limitée. Même si Dieu m'a permis de vivre ce parcours jusqu'à vous, il ne s'est pas fait sans blessures, sans fracas, qui ont laissé leurs traces, et des choses qui sont encore très présentes en moi. Et à cause de cela, il m'arrive de me sentir parfois très limitée. Les feux rouges dans ma vie, ils sont bien là. Alors il faut bien me rendre à l'évidence que la vie est faite de tous ces contrastes. Et c'est dans les contrastes que, je crois, nous nous réalisons. Et après tout, le vert et le rouge ne sont-ils pas complémentaires sur le spectre chromatique ? Le Seigneur m'a conduite jusqu'ici et j'ai vu que rien n'est impossible à Dieu. Et j'ai appris que j'avais des richesses et des capacités qui me permettent de m'épanouir dans cette vocation pastorale, d'être là pour accompagner une vie d'église dans des moments de paix comme dans des moments aussi plus douloureux. J'ai aussi découvert qu'ici qu'un pasteur n'a pas à être un être surnaturel avec un charisme incroyable qui le rendrait peut-être un peu meilleur que les autres. Une pasteur reste un être humain dans sa force et ses fragilités. Alors, c'est avec mes capacités et ma finitude que, chère Église de Mérin, je m'engage aujourd'hui à marcher à vos côtés. Je m'engage à mettre à profit ce que le Seigneur m'a confié ici, me mettre à votre écoute, porter un souci pour chacun et chacune d'entre vous. Aider à remettre du bois pour que la flamme de l'Évangile puisse constamment venir réchauffer les cœurs de tous ceux et toutes celles qui cherchent une étincelle de vie auprès de Dieu. La chaleur que nous offre notre foi, c'est une chaleur qui se partage généreusement. C'est pour cela que je m'engage à offrir à cette Église, autant que je le peux, ma passion pour ce message qu'est l'Évangile et qui m'a sauvé la vie, et qui, je l'espère, peut en sauver encore beaucoup d'autres. J'ai au fond de mon cœur ce profond désir d'observer, de prendre soin, de cultiver la vie de notre Église de manière créative et profonde, avec l'aide de mon cher collègue Philippe, qui est un allié précieux dans cette mission. J'avance dans ma vie ici avec vous, avec confiance en Dieu, mais aussi avec mes incertitudes qui peuvent être nombreuses. Nous avançons ensemble, vous et moi, ensemble, et chacun dans nos diverses réalités de vie. Cependant, nous nous soutenons les uns les autres, et je tenais à vous remercier ce matin pour tout ce que vous nous avez déjà apporté à Joël, à mon fils Simon et à moi-même ces dernières années. Et du fond du cœur, merci pour la place que vous m'avez offerte auprès de vous. Elle est précieuse.
Excusez-nous.
D'accord.
Nous avons entendu la très belle déclaration que tu as construite et présentée devant nous ce matin. Et c'est en conséquence de cette déclaration et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous t'installons dans la charge de pasteur de cette Église pour exercer auprès de celles et ceux qui la composent le ministère pastoral. Et cela conformément aux règles édictées par notre Église locale et à celles de notre Fédération d'Églises, mais surtout conformément et à l'imitation du souverain grand pasteur qui est le nôtre, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous, frères et sœurs de l'Église de Mérin, recevez avec bienveillance la pasteur que le Seigneur vous donne. Entourez-la d'égards et de respect, ainsi que les siens. Selon l'ordre même de Dieu, ayez beaucoup d'amour et de considération pour elle à cause de sa charge. Témoignez-lui votre confiance, puisqu'elle va travailler à l'œuvre du Seigneur parmi nous et nous annoncer l'évangile glorieux du salut. Nous allons implorer ensemble
la bénédiction de Dieu sur sa vie et son ministère. Je conclurai ce moment d'invocation et j'aimerais demander à Joël de bien vouloir s'approcher aussi, et puis aux personnes suivantes qui vont encore prier pour Célina et Joël, Annick Monod, Didier Souter, Johan Lerèche, et je conclurai.
Seigneur, nous te remercions parce que ton troupeau va de l'avant, se renouvelle de génération en génération. Et je te prie, Seigneur, toi qui donnes le vouloir et le faire, de donner toujours à Joël et Célina tes indications, tes mouvements de cœur pour savoir où conduire le troupeau pour qu'il ait toujours de verts pâturages, de l'eau fraîche, de la sécurité dans les moments de l'ombre et de la mort, et puisse se retrouver toujours à ta table, en ta présence. Que ton esprit accompagne Célina et aussi son fidèle compagnon Joël, qui est toujours avec elle dans tous les plans, et que ton onction les accompagne aujourd'hui et à chaque pas à venir. Amen.
Oui, Seigneur, nous avons entendu et surtout tu as entendu cet engagement et cela te réjouit. Tu vas honorer, Seigneur, la foi de Célina, son appel, et nous pouvons avoir la certitude, Père, que tu seras à ses côtés, aux côtés de Joël, dans tous ces moments effectivement faits de défis, de joie et parfois de peine aussi. Merci Seigneur parce que nous formons un corps, ton Église. Et ce corps est là aussi pour vivre ensemble, être à l'écoute les uns des autres, se supporter, s'encourager. Merci Seigneur parce que tu as mis cet appel sur Célina, parce qu'elle a à cœur ce corps et parce que tu vas l'équiper aussi pour vivre cet appel. Et Seigneur, en ton nom, je la bénis. Merci pour ces projets de vie que tu as mis devant elle, Seigneur. Merci pour ce chemin dans lequel elle s'engage aujourd'hui. Merci parce que cela nous réjouit et te réjouit. En ton nom et pour ta gloire. Amen.
Notre Dieu, notre Père, nous te confions maintenant notre sœur et notre pasteur Célina. Que tu la gardes et la confirme dans le beau ministère que tu lui as confié. Renouvelle-lui les ressources de ton Esprit Saint et les dons qui lui seront nécessaires à son service dans ton Église. Accorde-lui d'être une vraie dispensatrice de la grâce si généreuse de Dieu. Garde-la fidèle, humble, courageuse pour proclamer ton Évangile, sans être retenue par la crainte des hommes ou poussés par le désir de plaire aux humains. Donne-lui d'être pleinement humaine, de savoir écouter, entendre et comprendre. Accorde-lui prudence, discernement et courage pour le ministère auquel tu l'appelles. Et bénis aussi son mari Joël et leur fils Simon. Garde-les ensemble dans la joie et la dépendance de ta grâce. Que Joël puisse être à ses côtés un soutien de tous les instants. Nous te recommandons cette famille qui nous est précieuse. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, le Seigneur et le chef de l'Église, que nous te prions. Amen.
Cher Seigneur, tu appelles Célina à conduire cette communauté et à la servir. Je te remercie pour cette collègue de grande valeur. Renouvelle-lui dons et compétences nécessaires pour ce service. Donne-lui une capacité d'écoute, une disponibilité réelle, de la patience et l'humilité nécessaires, surtout aux moments les plus exigeants ou de grande fatigue, ou quand il faut partir au feu. Que ton esprit de vérité et de discernement la remplisse alors qu'elle se consacre au service du Seigneur. Ainsi, le temple de l'Esprit sera construit durablement et la présence du Christ habitera parmi nous pour la gloire du Dieu Sauveur. Toi, tu veilles sur ton Église jusqu'à la fin des siècles et nous te rendons grâce ensemble pour les ouvriers et les ouvrières qui se lèvent afin d'accomplir dans le monde la mission que tu as confiée à ton Église. Fais vivre chez Célina, que nous venons d'installer comme pasteur de l'Église évangélique de Mérin, toutes les grâces dont elle a besoin pour son ministère. Affermis sa foi chrétienne de sorte qu'elle puisse en témoigner sans relâche par ses paroles et par sa vie. Renouvelle en elle, jour après jour, les ressources de ton Saint-Esprit pour qu'elle réponde fidèlement et joyeusement aux exigences de sa vocation et soit un exemple à ton peuple. Inspire et conduis ton Église universelle. Préserve-la de se conformer au mode du moment et rends-la pertinente pour les défis du temps présent. Garde-la de renier son maître et sa foi. Rends-la fidèle dans l'obéissance, fervente dans la foi, zélée dans l'amour, active dans l'espérance. Dirige toutes les autorités civiles de cette ville, inspire leurs décisions et leurs actions pour que tous puissent vivre en paix et en sécurité pour le bien commun. Et nous offrons nos prières par le Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes, au Seigneur Jésus, chef de l'Église, comme à toi, Père Céleste, et au Saint-Esprit, soit honneur et gloire à jamais. Amen.
Un dernier chant sous forme de bénédiction. Que la grâce de Dieu soit sur toi et aussi pour l'Église, que la grâce de Dieu soit sur nous. Je vous invite à vous lever.
Et je vous propose de chanter ce chant en se regardant les uns les autres aussi. Hein, et à dire à votre voisin, à gauche, à droite, que la grâce de Dieu soit sur toi et en particulier sur Céline.
Nous arrivons presque au terme de ce culte. Nous avons encore quelques annonces à passer et je demanderai à Annick ensuite de s'approcher pour les mots d'envoi avant que nous passions à la suite, pleine de belles et bonnes surprises. Mais avant cela, quelques annonces rapides. Déjà, la naissance du petit, si on peut dire ça comme ça, Adrien Léniel, lundi dernier, 17 octobre. Un beau bébé de 3 kg 400 quelque chose. Tout le monde se porte bien, Marie-Léa et Adrien sont de retour à la maison et nous nous réjouissons de les revoir. À la fin de cette journée va démarrer une grande semaine, ou plus exactement la grande semaine, organisée par Kids Genève. Si jamais vous avez envie de rendre visite à la grande semaine, c'est tout à fait possible. Vous pourrez découvrir ce qui s'y passe et vous êtes tous et toutes les bienvenus. Donc, dès ce lundi 24 jusqu'au vendredi 28 octobre. Vendredi 28, à 17h, il y aura le vernissage où les parents des enfants sont conviés. Pour plus d'informations, pour coordonner votre visite, merci peut-être simplement de vous adresser à Roger Henniger. Tu veux te lever, Roger, s'il te plaît. Merci. Si jamais vous souhaitez passer pendant la semaine, merci de contacter Roger. Mercredi soir, dès 20h, avec une avant et une après-soirée, le groupe de jeunes des 15-25 ans, CTT Chrétien Tout Terrain. Je crois que nous avons une slide pour les paquets de Noël également. Tu veux dire deux mots, Anne-Marie ?
Donc, on continue les paquets de Noël. Après la grande semaine, on va commencer à faire les gros achats pour les paquets. Donc, on est très heureux de tout ce que vous allez apporter dans les tirelires en carton qui est encore par-ci, par-là, pour faire ses achats. Qu'est-ce que j'ai... Je ne suis pas mon texte. Donc, on continue à récolter certains dons. Merci pour tout ce que vous avez apporté. Et pour nous, c'est important pour gérer si vous pouvez vraiment apporter tout ce que vous avez à cœur d'apporter jusqu'à dimanche prochain. Comme ça, on sait où on en est, on sait ce qu'on a encore à acheter, s'il manque encore des affaires pour les paquets. Et on aurait besoin de 2 ou 3 personnes pour préparer. On fait les paquets de Noël avec les enfants donc dimanche dans 2 semaines. Et on a 2-3 jours avant, on aurait besoin de 2-3 personnes, soit le jeudi, j'arrive plus à lire là, le jeudi 3 ou le samedi 5. 2-3 personnes pour préparer, il faut à peu près 2-3 heures de temps pour préparer, il y a pas mal de choses à préparer pour qu'après ça roule quand les enfants sont là, ils savent ce qu'ils ont à faire et tout. Donc si vous pouvez venir vers moi pour vous annoncer, vraiment avec plaisir. Moi je suis un petit peu à moitié dans mes... je peux pas travailler à 100% à cause d'un problème de droit. Donc, j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Je peux pas assumer toute seule. Voilà. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup.
Merci, Anne-Marie. Merci. Là, je nous rappelle que notre église locale vit grâce à vos dons. Merci d'exercer votre générosité, soit par versement, soit au moyen de la boîte ou encore de Twint. Merci pour votre générosité. Elle est vraiment précieuse. Annick, tu veux bien t'approcher, s'il te plaît, pour la bénédiction.
Vous pouvez vous lever, parce que nous n'allons pas repartir les mains vides, pas le cœur vide, et sans non plus un horizon vide, que le grand sourire de Dieu, qui est toujours sur vos vies, devant les nuages ou derrière les nuages, vous accompagne en sachant qu'il vous accepte, vous accompagne et vous inspire à chaque pas que vous ferez à partir de maintenant et dans les jours qui viennent. Amen.
Et à partir de maintenant, la fête va continuer. Eh oui, t'es pas au bout de tes peines, la journée s'annonce longue. Donc j'aimerais vous inviter chacun, chacune à rester pour l'apéritif qui va être proposé ici dans le foyer, mais il y a la possibilité d'user des extérieurs avec le beau soleil qui ne tardera pas à percer le premier brouillard automnal. Mais avant cela, j'aimerais juste solliciter votre aide pour empiler les chaises sur les côtés de la salle. Et puis il y a aussi la possibilité, si vous n'êtes pas inscrit pour le repas, je crois, Denise, il reste quelques billets dispo. Alors, quelques billets dispo, merci d'aller chercher les bons repas dans le foyer, sur votre droite, sur ma gauche, merci d'aller chercher les bons repas, et pour votre aide, simplement pour empiler les chaises sur les côtés. La fête continue.